Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Saï au micro de Canal M pour vous présenter en ce vendredi l'émission Le National qui, je vous le rappelle, compile pour vous et vous diffuse des sujets qui nous semblent d'intérêt général pour tous les francophones au Québec et au Canada. Alors retour, si vous le voulez bien, sur l'émission que je connais bien, des livres pleins les oreilles, celle du 12 octobre, où entre autres, et c'était une première, Corinna Surcel du CAEB, spécialiste en information et en accès donc, du CAEB au Centre d'accès équitable aux bibliothèques, nous a présenté trois livres. C'est une espèce d'infolettre, comme je le dirais d'ailleurs en présentation, qu'on nous présentera à chaque mois dans le cadre de l'émission des livres pleins les oreilles. Corinna Surcel. Et c'est une première à l'émission et j'en suis très, très, très heureuse. Elle s'appelle Corinna Surcel. Bonjour, Corinna.
Bonjour.
Corinna, vous êtes du CAEB, c'est-à-dire le CAEB. Rappelez-nous ce qu'est le CAEB.
Le CAEB, c'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. C'est un organisme à but non lucratif qui met à la disposition des Canadiens incapables de lire les imprimés, des livres et d'autres documents sur le support de leur choix. Donc, on a des livres audio en format DAISY et aussi des livres en braille.
Et aussi des livres en braille. Et je précise que le mot magique dans ce que vous venez de nous dire, c'est le mot canadien. Parce qu'ici, au Québec, nous sommes représentés par le SQLA, mais CAEB, c'est vraiment canadien d'est en ouest, avec les bibliothèques, hein, c'est bien ça, qui décident d'être adhérentes au CAEB et qui permettent ainsi aux Canadiens français ou anglais de pouvoir bénéficier de tous ces livres-là. C'est bien ça?
Oui, exact.
Et je dois préciser, Corinna, que vous êtes une fidèle de l'émission. C'est une émission que vous écoutez souvent.
Oui.
Mais j'aime bien entendre ça, Corinna. Vous êtes toute timide, hein? Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Vous avez un très joli accent. Est-ce que je peux vous demander d'où vous venez?
Ah oui, je suis roumaine.
Vous êtes roumaine. Ah
oui.
Bien, vous avez vraiment un très, très, très joli accent.
Ah, merci.
Et vous êtes passionnée par la littérature française parce que pour faire le métier que vous êtes, quel est votre titre d'ailleurs au sein du CAEB?
Le titre est juste spécialiste en accès information, mais je suis bibliothécaire de profession.
De profession. Est-ce que vous êtes née en Roumanie?
Oui.
OK. Et donc, vous avez appris le français en arrivant ici. Ça fait longtemps que vous êtes là?
Ah oui, j'ai habité à Québec, à Montréal pendant 10 ans.
Uh-huh.
Et c'est là que j'ai appris le français.
Eh bien, bravo. Et vous êtes passionnée par la littérature française, entre autres, par la littérature en général?
Oui, par la littérature en général et la littérature québécoise.
D'accord. Et la littérature québécoise?
Oui.
C'est vrai que nous avons des auteurs absolument fantastiques ici.
Oui, très.
J'en reçois beaucoup à l'émission, hein, vous le savez. Et,
oui.
Et vraiment, et c'est pas de la flagornerie de ma part, c'est une réalité. On est bien représentés. Alors Corinna, aujourd'hui, vous nous parlez de quelques livres. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois de temps en temps, vous allez nous offrir une espèce de petite infolettre de ce que vous présentez au CAEB et des livres sur lesquels vous voudriez peut-être faire un gros plan pour que les gens se les procurent.
Oui, exact. Nous avons une infolettre qui est en bulletin mensuel, qui s'appelle « Livre ouvert
oui. »,
où on fait des recommandations de lecture.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, je vais parler de trois livres
mm-hmm.
que je considère que sont très bons et tout le monde peut les lire s'ils sont abonnés au CAEB.
D'accord. Allez-y donc.
OK. Donc, le premier livre s'appelle « Autopsie d'une femme plate », qui est écrit par Marie-Renée Lavoie.
Oui.
C'est un roman qui est parfait pour la fin de l'été. Il est plein d'humour et de tendresse. C'est l'histoire de Diane, qui a 48 ans et qui est délaissée par son mari quelques jours avant leur 25e anniversaire de mariage.
Mmh.
Il l'a laissée pour une femme qui est beaucoup plus jeune qu'elle. C'est une histoire classique de rupture.
Refrain connu. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais on en a tellement parlé aujourd'hui à cette émission-là. C'est presque pas surprenant que vous m'arriviez avec un sujet comme celui-ci.
Oh. Oui, mais ça a l'air triste, mais c'est une histoire qui est dite avec beaucoup d'humour. Le personnage Diane, elle est très amusante.
Mm-hmm.
Elle est surtout pas plate. Il y a une scène dans le livre où elle enlève ses bottes pour les donner à un homme avec qui elle travaille, mm-hmm. qui lui demande où elle a acheté ses bottes parce qu'il veut acheter les mêmes pour sa femme. Donc, elle enlève les bottes et part pieds nus pour s'acheter d'autres chaussures. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça dans le livre.
Bon, donc c'est vraiment histoire classique de rupture, mais de l'humour.
Exact, oui. Et c'est suggéré ce livre pour tous ceux qui ont besoin de rire.
Parfait. Alors, pour si vous avez besoin de rigoler un bon coup, Autopsie d'une femme plate de Marie-Renée Lavoie. Ensuite.
Ensuite, on a Takawan d'Éric Plamondon, qui n'est pas un livre léger du tout. Mm-hmm. C'est une histoire un peu plus sérieuse qui est inspirée par un événement historique, la crise des Restigouches en 1981. Quand les Mi'kmaq ont affronté des centaines de policiers de la Sûreté du Québec mm-hmm. pour une question de droit de pêche au saumon.
D'accord.
Pendant cette situation, les agents de la Sûreté du Québec ne se portent pas très bien avec les personnes qui habitent sur la réservation. Mm-hmm. Et c'est avec cette toile de fond que le roman suit quatre personnages. Un agent de conservation de la faune qui a donné sa démission, une enseignante qui vient de la France, une fille Mi'kmaq de 15 ans et un autre homme qui habite dans les bois.
D'accord.
Oui, et quelque chose arrive à cette fille de 15 ans.
Oui.
Les vies de ces quatre personnages s'entremêlent. Ce livre est structuré en des chapitres courts et
oui.
il y a des chapitres qui traitent seulement de l'histoire. Donc, on apprend beaucoup, beaucoup à propos de la situation et de l'histoire du Québec.
Oui, oui.
Et c'est très intéressant comme structure, le livre.
Oui, oui, oui. Takawan, hein?
Takawan.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Takawan?
Ça a à faire avec le saumon.
Avec le saumon?
Oui.
D'accord.
Oui.
Alors, ça s'écrit Takawan et c'est d'Éric Plamondon. Et puis, je suis très contente que vous nous présentiez un livre qui n'est pas récent, du moins il n'est pas là des dernières années, mais j'avais essayé d'avoir son auteur et ça n'avait pas fonctionné. Alors, je suis heureuse que vous nous parliez d'eux.
Bondré, d'André Michaud.
Oui, Bondré, hein? B-O-N-D-R-E-E, oui.
Oui, oui.
C'est ça.
C'est un livre qui va regagner de la popularité au cours de ce mois parce qu'il vient d'être traduit en anglais et se retrouve dans la première sélection du prix Giller de la Banque Scotia.
OK.
Même quand le livre a sorti, il a connu beaucoup de popularité,
oui.
a remporté beaucoup de prix. Donc, on verra qu'est-ce que va se passer avec le prix Giller.
Oui.
Mais ce roman, l'action est à l'été de 1967.
Mm-hmm.
Il y a une jeune fille qui disparaît dans les forêts qui sont à la frontière Maine-Québec,
oui.
Qui entoure Boundary Pond, qui est un lac que les locaux appellent Bondré, d'où le titre du livre.
D'accord.
Et la fille est retrouvée morte. On commence par croire que c'est un accident. Mais lorsqu'une deuxième adolescente disparaît, on comprend que ce n'est pas un accident. Oui, et le crime continue. C'est un roman à suspense.
D'accord.
Et c'est très bien écrit, très
oui,
bien
hein.
effectué. Oui.
Je dois préciser que quand il est sorti en 2014, il avait obtenu le prix du gouverneur général. Quand
oui.
même, le prix Saint-Pacôme, le prix Arthur Ellis, le prix des lecteurs Quai du Polar. Inutile de vous dire que si vous aimez le genre thriller bien fait, il faut lire Bondré d'André Michaud. Vous êtes d'accord?
Oui.
Alors, pour finir, je voudrais que vous nous rappeliez que ces livres-là donc, sont disponibles au CAEB. C'est bien ça, ils peuvent être empruntés pour les abonnés. Tout le monde peut être abonné dès l'instant qu'on prouve qu'on vit avec une déficience visuelle, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça.
D'accord. Les formats, j'imagine, c'est le format Daisy, format Victor aussi. Est-ce que vous avez encore des CD?
Oui, donc on a le disque Daisy et aussi on a des formats qui peuvent être téléchargés. Sur une tablette ou un téléphone intelligent.
D'accord. Et puis si on veut s'inscrire à l'infolettre de CAEB, on fait comment?
Vous pouvez aller sur notre site web et sur la page d'accueil, vers le bas de la page, il y a un lien pour s'inscrire.
Alors, caeb, caeb.com ou point?
Bibliocaeb.ca.
@bibliocaeb.ca.
Oui.
OK, d'accord. Donc, .ca, c'est facile comme ça. Je remercie beaucoup parce que je prends toujours en note en même temps pour... Alors, merci beaucoup. Bon, ben voyez-vous, là, vous avez cassé la glace.
Oui,
alors,
merci.
Mais je vous en prie, Corinna, vous avez très bien fait ça. Et on se retrouve d'ici 3 semaines à peu près.
Parfait, à la prochaine.
À la prochaine, bonne fin de journée, au revoir. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Kevin Breton se déplace en fauteuil roulant. Il est donc tout à fait habilité à nous partager ses trucs. Et là, il a décidé de nous dire, de vous dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour préparer son fauteuil roulant pour survivre à l'hiver.
Je prends un moment pour m'adresser solennellement à vous. Je m'adresse particulièrement à ces personnes qui, comme moi, se meuvent la carcasse par l'entremise d'une aide à la mobilité, qu'elle soit manuelle ou motorisée. Vous qui nous écoutez possiblement dans le confort de votre salon, les pieds au chaud, sous une couverte douillette alors que la fenêtre est encore légèrement ouverte, laissant s'infiltrer une petite brise inoffensive. Vous êtes sûrement là à siroter un latte à la citrouille, acheté dans le Starbucks du coin, mais il n'en demeure pas moins que dans la mesure du très bientôt, on parle de jours, de semaines, voire d'heures. Vous aurez bientôt les souliers tachés de gadou et la mine défaite à tenter de vous réchauffer les mains sur un vulgaire café maison parce que rien au monde ne vous convaincra maintenant de quitter le confort de votre nid parce que l'hiver est à nos portes. Et elle compte bien entrer sans cogner et salir votre beau prélard de ses bottes pleines de slush. L'hiver arrive. J'ai prononcé ces mots fatidiques, chers auditeurs, chères auditrices, et je m'en excuse. Mais sachez qu'en ce beau lundi d'automne chaud, mon intention n'est pas de ruiner le reste de votre semaine, loin de là. Mais l'hiver arrivera, comme elle arrive chaque année, d'aussi loin que je puisse me rappeler, toutes mes prières automnales suppliant le dieu de la météo de nous faire faux bon cette année et de mettre l'arrivée de l'hiver faisant lettre morte. Oui, cette petite chronique sonne aujourd'hui l'alarme et le glas de l'automne. Terminer les longues balades le long du canal, les escapades au verger ou même sur le Mont-Royal, vos aventures semi-pédestres tirent à leur fin et vous serez prochainement confinés à, tout comme moi, hiberner jusqu'à ce que la neige et la glace, ces véritables sabots de Denver pour fauteuil roulant, ne fondent. Mais ne soyons pas pour autant défaitistes. Une personne handicapée et avertie en vaut deux, et vaut mieux bien se préparer à affronter décembre, janvier et février pour mieux profiter du printemps ensuite. Comment se faire? Bien, fort d'une expérience de 10 ans à me transporter seul, en fauteuil roulant, dans les rues de Montréal et de Sherbrooke, deux villes pas particulièrement reconnues pour la qualité de leur déneigement, disons-le comme ceci, j'ai développé quelques astuces que je compte aujourd'hui vous transmettre. La première serait certainement de vous faire des provisions pour minimiser les sorties inutiles. Et si votre garde-manger n'est pas de mesure surdimensionnée, n'ayez crainte, plusieurs supermarchés grandes surfaces comme IGA ou Metro, pour ne pas les nommer, offrent un service de livraison gratuite à l'achat d'un prix minimal pour les personnes âgées ou avec un handicap. Il est même possible de faire vos emplettes directement dans le confort de votre maison grâce à une application. Il ne vous restera plus qu'à préchauffer le four à 350, ramollir les pâtes et enfourner le plat de lasagne qui vous réchauffera le cœur le temps d'une soirée. Profitez aussi des dernières journées d'automne pour vous munir d'un long paillasson à étendre le long de votre entrée, tel un tapis rouge accueillant les plus grandes vedettes de Hollywood. Des carpettes de chez Rona ou Home Depot, non pas les plus esthétiques peut-être, mais peut-être les plus cheapettes, feront l'affaire pour absorber la gadoue, la slush et la saleté qui se seront amassées le long de vos roues lors de vos sorties à l'extérieur. Par ailleurs, préparez-vous mentalement à passer de longs moments dans votre entrée de demeure. Oui, le vestibule, ce simple lieu de passage, là où on n'a pas l'habitude de s'arrêter, deviendra, le temps d'une saison, un refuge, un havre, un lieu d'introspection où le bout des doigts gelés, la morve sur le bout du nez, vous réfléchirez à vos cellules et à combien de temps ça vous prendra encore avant de pouvoir déménager en Floride. Prévoyez le coup donc, laissez traîner quelques magazines à proximité, voire des vives à consommer, ou encore, préférablement, un chargeur de téléphone, tout pour pouvoir passer de longues minutes immobiles sur le tapis à attendre que vos roues et vos larmes sèchent afin de ne pas laisser vos traces partout sur le salon et dans la cuisine et devoir nettoyer le plancher pour une sixième fois cette semaine déjà. Et la partie névralgique, maintenant, concerne l'entretien de votre fauteuil roulant. Le petit check-up annuel qu'on recommande de faire au centre de réadaptation peut très bien se faire en octobre pour s'assurer que tout va bien et sinon procéder à un réalignement des roues, à la lubrification des fourches, à la vérification des freins, à la réarticulation des marchepieds et au changement des bearings, etc., 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 etc. Et attention! Les articulations du fauteuil roulant sont un peu comme celles de grand-papa, elles se raidissent l'hiver. Ce n'est pas la neige ni la slush qui causera le plus de dommages à votre mini Batmobile, mais bien le sel qui est utilisé pour faire fondre la neige, dont le calcium pourra créer rouille et corrosion sur les vis et autres parties en métal de votre fauteuil. Ainsi, un retour au centre de réadaptation après l'hiver est presque inévitable. Et en dernier lieu, permettez-moi de vous rappeler l'importance de se préparer psychologiquement à faire face à toutes ces moqueries et autres drôleries d'avant-garde qui accompagnent sine qua non chaque hiver. Placez-vous devant un miroir, tenez-vous bien droit, voyez à feindre votre plus beau sourire. Tentez de dissimuler vos simagrées lorsque inévitablement des oncles, des tantes et même des inconnus, oui, des inconnus, comme la caissière d'un Dollarama ou le chauffeur d'un taxi, vous demanderont, sourire en coin, peinant à contenir leur rire gras, convaincus d'avoir déniché la blague du siècle, « Avez-vous mis vos pneus d'hiver? » vous demanderont-ils. Oui, une blague qui se transmet d'oncle en oncle depuis l'invention de la roue. C'est inévitable, vous y ferez face. Hochez poliment de la tête, affichez un sourire courtois et quittez la pièce pour pousser un long soupir et dites-vous que le printemps approche. En terminant, je vous rappelle qu'en moyenne, Montréal reçoit plus de 300 cm de neige chaque hiver, mais que, heureusement, avant que les premières chutes ne débutent, la fin du mois d'octobre s'annonce beau et chaud et vous avez donc le temps d'en profiter.
Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient.
Et dans Aime la vie également, il m'arrive de faire des entrevues que l'on diffuse dans le cadre de cette émission, diffusée le lundi à midi et animée par l'ami Kevin Breton. Et cette journée-là, je recevais José Boyer, qui est agente de développement et de communication au RAM, et Joanne Garneau, qui est non-voyante. Elles sont allées faire la visite du WordPress Photo, voilà, je vais le dire. C'était donc des personnes non-voyantes avec des bénévoles. Fort intéressant, écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez vu cette année cet événement-là, le WordPress Photo, qui était présenté au marché Bon Secours. Moi, j'y suis allée il y a seulement d'ailleurs quelques semaines, alors j'ai bien ça en mémoire et je ressens encore toutes les émotions que j'ai pu ressentir face à certaines photos. Et il y a eu une expérience fantastique qui s'est déroulée et je vais en parler tout de suite avec José Boyer du RAM, bien sûr. Bonjour, José.
Bonjour.
José, parlez-nous de ce que vous avez mis sur pied.
Écoute, nous, c'était la première fois qu'on faisait ça. Nous, habituellement, on fait des activités au centre communautaire.
Oui.
Cette année, on s'est dit, ben pourquoi pas faire une activité culturelle, une sortie.
À l'extérieur, oui.
À l'extérieur, oui. Mm-hmm. Christine m'avait parlé de WordPress Photo. Bon, ben on a lancé l'invitation aux membres. Mm-hmm. Puis il y a quelques membres qui sont venus avec nous. Écoute, il fallait s'organiser aussi pour avoir des bénévoles qui étaient capables de faire la description de photos, parce que c'est pas tous les bénévoles qui sont...
Voilà.
Qui sont capables de le faire.
Non, c'est parce qu'en plus, il faudrait peut-être que je rappelle, c'est que donc, on est au RAM, hein, et donc là, vous travaillez directement, c'est le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Vous travaillez avec et pour des personnes non-voyantes, et donc vous vous êtes dit, on va amener ces personnes-là voir, entre guillemets, le WordPress photo. C'est quand même fantastique.
Exactement. On invitait les gens semi-voyants puis non-voyants parce qu'il y en a qui ne voyaient pas beaucoup non plus. Mm-hmm. Fait que donc, c'est ça, comme je te dis, c'était un projet pilote pour la première fois.
Oui.
On avait décidé que c'était un bénévole par deux membres, mais finalement, c'est un bénévole par membre parce que un bénévole pour deux membres, ça aurait été trop difficile pour le membre, pour le bénévole.
Pour le bénévole de pouvoir décrire. Parce que là, la façon dont ça se passait, les personnes non-voyantes se déplaçaient exactement, évidemment, comme tout le monde. Et lorsqu'elles se retrouvaient devant une photo, il y avait donc quelqu'un qui décrivait la photo, c'est ça?
Exactement, qui faisait la description de la photo. Parce qu'il y avait plusieurs volets.
Fait que bien sûr.
On a pu avoir la chance d'arriver vers 9h30. Ils nous ont ouvert les portes pour pas qu'il y ait trop de monde en partant.
Oui.
Fait qu'ils ont été gentils, ils nous ont ouvert les portes à 9h30 pour qu'on puisse circuler déjà d'avance avant les autres.
Presque juste pour vous, quoi.
Oui, c'est ça. Puis la prochaine fois, l'année prochaine, ben, ils vont ouvrir les portes à 9h, au lieu de 9h30.
Ah, ça, ce sera encore mieux. Et je suis très contente parce que, José, vous avez eu envie. Je suis désolée, on entend un petit écho. C'est un petit problème technique qui peut arriver. J'espère que ça ne vous fatigue pas trop. Mais donc, vous avez près de vous Joanne Garneau. Bonjour, Joanne.
Oui, bonjour Clotilde.
Bonjour Joanne. Joanne, vous êtes non-voyante totalement aveugle ou...
Ouais, moi j'ai perdu la vue, ça fait 10 ans, mais j'étais semi-voyante auparavant.
Donc, d'accord.
Je peux me faire une idée, là, quand quelqu'un me décrit quelque chose, je l'ai tout de suite en tête. Là.
Oui, c'est oui, je comprends.
Quelqu'un qui n'a jamais vu, mais là, c'est plus difficile.
Bon, Joanne, lorsqu'on est voyant et qu'on est en face de ces photos-là, il y en a certaines qui nous dérangent, il y en a certaines qui nous chagrinent, qui nous bouleversent même, hein, qui nous renversent complètement. Est-ce que vous avez réussi à ressentir cela?
Moi, oui. À mon niveau à moi, là, je trouve que j'ai le même sentiment face à des photos que, mm-hmm. qui m'ont été décrites, parce que j'avais vraiment une bénévole extraordinaire qui avait vraiment une bonne façon de décrire la photo puis l'émotion qu'il y avait dans la photo.
Ah oui, hein?
Puis, ça prend des bénévoles.
Les dimensions, puis bon, les couleurs.
Oui, oui.
Il y a vraiment sur la photo s'il y a de la neige ou quoi, mm-hmm. c'est l'action qui se passe. Mm-hmm. Puis après ça, elle me lisait la fichette qui est à coller à chaque photo.
Oui.
Donc, c'est vraiment différent. tu as une idée générale, bon, la photo, c'est telle affaire. Puis vraiment, avec la description qu'elle me faisait, ben, je pouvais vraiment me représenter ce qu'il y avait sur la photo.
Oui, et est-ce que... Oui, je comprends, Joanne. Et est-ce que vous avez souvenance maintenant de la représentation que vous vous faisiez des photos?
Ah oui, c'est ça que j'allais dire. J'ai encore en mémoire des photos... Oui, c'est assez impressionnant.
Lesquelles, par exemple? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné parmi toutes ces photos-là, Joanne?
Ben, il y a beaucoup de photos sur la guerre. Là.
Oui.
Moussoul, tout ça, en Irak. Là,
c'est
très dur. Là.
Oui, c'est dur.
Donc,
hein?
Après un certain laps de temps, on dit qu'on va passer à autre chose de plus léger, peut-être.
Oui, mais il n'y a pas grand-chose de léger. Hein? Avez-vous remarqué?
Non, ben t'as les...
Marcher pour le secours, c'est un peu léger. Les Olympiques aussi, c'est un peu moins...
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Rough, c'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Je trouve qu'on y va beaucoup dans les choses sensationnalistes. Hein, et,
Ben, c'est ça, c'est pourquoi les gens prennent des photos, c'est sur des... souvent c'est des drames. Hein.
Mais...
C'est ça qui arrive, hein, c'est la vie.
Mais c'est peut-être dommage en même temps. En tout cas, moi, c'est le commentaire que je me suis fait. Je me suis dit, vous rendez-vous compte si on passait autant de temps à photographier la beauté des choses aussi.
Mais oui, il y en a peu, parce que tu sais, la nature, il y avait quelques photos. Là.
Mm-hmm.
Ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. Puis il y avait aussi les Syriens là, qui arrivaient ici. Puis leur espoir, là, qu'est-ce qu'ils
disent.
Ça, c'est intéressant.
C'est intéressant. Il y avait quelques photos animalières aussi hein, qui étaient merveilleuses. Hein. J'ai souvenir, vous aussi, sans doute, de cette tortue qui est prise dans des filets.
Ouais.
Ah, on est dans les bleus turquoises, c'est vraiment terrible.
Ben, c'est pour ça que je vous dis, c'est la qualité de la photo aussi qui est extraordinaire. Là.
Ouais.
C'est la manière que nous le décrivait. Puis j'imagine que quand tu les vois, ben, c'est encore plus extraordinaire.
Bien sûr. Mais ça prend aussi un bon descripteur quand même, hein, parce que si vous avez un descripteur qui cherche ses mots puis qui vous met un « e » à tous les deux mots, ça doit être un petit peu pénible.
Ben, c'est pour ça, en trouvant les bénévoles avec des critères, on est mieux servi.
Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, c'est quelque chose que vous allez donc renouveler l'année prochaine?
Oui, c'est quelque chose qu'on va refaire l'année prochaine en espérant avoir plus de membres qui vont venir.
OK. Ben, écoutez, vous pourrez compter sur nous pour publiciser cela, en tout cas.
Oui.
C'est sûr. Hein? Et puis, est-ce qu'il va y avoir d'autres sorties extérieures comme ça, organisées par le... Non, pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, non.
Alors, on aura l'occasion de se reparler, José, puis encore une fois, José Boyer du RAM. Bravo pour cette initiative. Merci, Joanne Garneau, d'avoir pris le temps de nous parler de cette expérience que vous avez vécue au World Press Photo 2017. Merci.
Ça m'a fait plaisir.
Bonne journée à vous deux.
Bonne journée.
Au revoir. On se retrouve après la pause. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est la deuxième partie de l'émission, Le National. Clotilde Seille est avec vous pour vous accompagner et pour vous présenter un autre sujet, extrait de Aime la vie. C'était le 16 octobre avec Naïma Abadi, chercheure à la tête du projet Embrace the Life. Elle explique à Kevin Breton comment la réalité virtuelle peut assister les personnes en situation de handicap qui prennent le transport en commun.
On en entend de plus en plus parler de la réalité virtuelle ou encore de la réalité augmentée. C'est pas seulement quelque chose qui est créé pour le divertissement ou pour le plaisir. Ça peut également avoir une utilité médicale bien précise dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Madame Naïma Abadi qui va nous expliquer l'une de ces fonctions-là qui pourrait être utilisée un petit peu plus tard pour simplifier la vie des usagers du transport en commun qui sont handicapés. Bonjour, Madame Abadi.
Bonjour.
Donc, l'un de vos champs de spécialisation, c'est la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cette nouvelle technologie-là va pouvoir être utilisée en médecine dans les prochaines années?
Ben, merci pour cette opportunité. En effet, la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée dans le domaine médical. À prime abord, c'est utilisé pour vraiment faire pratiquer les jeunes médecins pour simuler des chirurgies afin qu'ils se pratiquent et de minimiser les erreurs.
Mmh.
Mais on voit de plus en plus l'utilisation de la réalité virtuelle pour traiter certaines conditions chez les patients. Et ce qui vient vraiment en tête de liste, c'est le traitement de la douleur aiguë. Par exemple, à l'hôpital Cedar Medical Center à Los Angeles, on traite la douleur parce qu'on arrive avec la réalité virtuelle à truquer le cerveau pour lui faire oublier la douleur tout en le mettant, en le divertissant avec une immersion en réalité virtuelle qui crée une sensation de bien-être chez le patient.
Ouais, j'avais déjà vu des études ou des cas semblables où, par exemple, une personne amputée, on pouvait simuler que la personne voyait en fait le membre qui avait été amputé grâce à la réalité virtuelle et ça lui permettait même donc de masser le membre qui était reconstitué virtuellement et de chasser plusieurs douleurs. C'est vraiment fou ce que la technologie va permettre dans les prochaines années. Vous, chez Embrace the Life, vous avez exploré un autre pendant ou une autre utilité de la réalité virtuelle qui devrait aider les usagers du transport en commun qui se déplacent en fauteuil roulant. Expliquez-moi pourquoi.
Bon, en fait, on sait très bien que malgré les efforts déployés de la part des municipalités et des sociétés de transport, en aménageant des espaces pour vraiment faciliter les déplacements des personnes en fauteuil roulant, ces personnes-là se confrontent encore à des nombreux défis pour utiliser les transports en commun. Et ces défis sont dus au manque de familiarité avec la navigation en fauteuil roulant dans des lieux publics, la peur de l'inconnu, le manque de confiance. Et donc, ces défis, malheureusement, provoquent beaucoup d'anxiété chez les personnes en chaise roulante et les confinent chez eux, tout en affectant, bien entendu, leur qualité de vie et leur participation sociale.
Donc, de ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, les obstacles pour accéder au métro ou au transport en commun sont pas seulement d'ordre architecturaux. Il y a également des problèmes liés à l'éducation, c'est-à-dire comment je fais pour accéder au métro, qui est extrêmement anxiogène. Et vous avez décidé, en fait, de faciliter leur accès grâce à une espèce de capsule vidéo immersive.
Oui, mais en fait, c'est tout à fait ça, parce que nous, on se base vraiment dans un environnement réel que la personne va vivre réellement dans la vraie vie, comme par exemple les stations métro. On prend des capsules vidéo et on les rend immersifs, 3D et interactifs. Et avec ça, on développe des scénarios d'itinéraires que la personne doit prendre pour son déplacement, quelle que soit la station de métro qu'elle va prendre. Et donc, ce qui fait, ça permet une familiarité avec les environnements avant et ça donne une motivation pour que la personne emprunte le transport en commun.
Donc, ça vient désamorcer certaines craintes, en fait. C'est que, par exemple, quelqu'un qui va utiliser pour la première fois le métro de Montréal, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai utilisé, j'étais tout perdu. Ça peut apparaître comme un labyrinthe, carrément. Encore plus quand il faut chercher où se trouve l'entrée accessible, où se trouve la boîte de paiement et où se trouvent également les ascenseurs. Donc, vous, ce que vous avez fait, vous avez reconstitué la station Henri-Bourassa. C'est la première phase. Et là, c'est possible de circuler à l'intérieur de la station reproduite très fidèlement, comme si on était une personne en fauteuil roulant.
Tout à fait, très fidèlement. La personne, non seulement à ça, on a rajouté une signalisation pour vraiment diriger et orienter la personne pour se mouvoir dans ce labyrinthe pour se rendre OK. Uh-huh. Et ces scénarios qui sont intuitifs dans la mesure où ça respecte le niveau de la personne. Ça veut dire qu'on n'impose pas à la personne un niveau ou un mouvement une vitesse de mouvement. C'est la personne qui choisit à quel rythme elle doit se mouvoir et elle va interagir avec l'environnement qui l'entoure, à savoir appeler l'ascenseur, rentrer dans l'ascenseur et demander aussi l'étage auquel elle doit se rendre.
Oui, parce qu'il y a une trajectoire d'imposer, mais il y a quand même moyen de reculer, d'avancer, de revenir sur ses pas pour, par exemple, mémoriser le trajet.
Tout à fait.
Puis,
exactement ça.
Vous en êtes où dans le développement? Est-ce que vous en êtes à un stade ou par exemple, vous collaborez avec la STM ou les différentes agences de transport afin de faire connaître votre produit ou votre application?
Ben, jusque-là, on était dans le développement. Donc, on voulait rendre cette application aussi accessible. Ça veut dire qu'on va la déployer sur différents formats. Un format pour la société de transport, à savoir la STM, via leur site web. Donc, et puis, on va avoir aussi un format qui est vraiment déployé sur le téléphone cellulaire intelligent. Donc, la personne, elle peut vraiment y accéder par son simple téléphone. Et donc, là, pour le moment, on est pour négocier avec la STM et aussi la Ville de Montréal pour montrer notre, bien sûr, capsule démonstratrice et pouvoir collaborer avec eux.
Parce que, bon, quand on pense à la réalité virtuelle, on imagine tout de suite le grand casque qu'on s'enfile sur la tête, mais votre application ou votre simulation immersive va également être disponible, comme vous l'avez dit, via une application qui sera possible de télécharger chez soi. Et donc, la veille de pouvoir prévoir ses déplacements en fonction et peut-être gagner du temps. Si on veut avoir plus d'informations, on peut visiter le site internet embracethelifevr.com. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs capsules vidéo qu'on peut visionner sur votre site internet si on veut se faire une meilleure idée de votre projet.
Tout à fait.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, Naïma. On vous souhaite beaucoup de succès dans la suite de vos projets. Puis on se reparle très bientôt, espérons-le, pour peut-être en studio une prochaine fois.
Très bien. Merci pour vous.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Merci.
Je t'aime, le sort en est jeté, et j'en ferai le thème de ma réalité. Je donnerai mon corps à des sciences nouvelles, je déjouerai la mort, je viendrai qu'un. Tu m'appelles. Je t'aime, et déjà cet amour érigé en système enflamme les discours. Et en bas dans la rue, c'est la révolution. Les statues et que résonne ton prénom.
Il y a dans notre programmation à Canalem une émission qui est réellement un incontournable. Elle est présentée par Benoît Racette. Il s'agit d'Accès libre. Et ce jour-là, dans le cadre de cette émission Accès libre, Benoît recevait Sonia Boucher, qui est sexologue à domicile et qui, ensemble, ils se posaient la question « Quel devrait être le rôle des parents face à l'épanouissement sexuel de leur enfant en situation de handicap ?»
Il y a un déferlement je dirais, d'annonce sur la maltraitance, le viol, les agressions sexuelles. On est très envahi par ça en ce moment et ça nous fait réfléchir, ça peut même nous faire mal. Et on appelle donc Sonia Boucher pour mieux comprendre la situation. Bonjour Sonia Boucher.
Bonjour M. Racette, ça va bien?
Oui, ça va bien. Donc je rappelle que vous êtes sexologue chez Sexologue à domicile. Comment vous réagissez à cette campagne de dénonciation, mais aussi, je dirais, de réaffirmation de l'importance du consentement?
Pour moi, en même temps, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Je m'explique. En fait, c'est la visibilité que ça procure qui est pour moi très important. On ne se rend pas compte combien dans nos proches, il y a tellement de femmes victimes qui sont touchées par le harcèlement, par la violence sexuelle, par l'agression, et qui ont gardé ça secret pour elles. Donc, maintenant, avec ce campagne-là, on voit à quel point chacun, nous, on connaît une personne qui a déjà subi une agression. Pour moi, c'est un mouvement important.
Il faut rappeler aussi, tristement, que 40 % des femmes en situation de handicap auraient subi une agression sexuelle au cours de sa vie. Ou subirait, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle avec vous de sexualité avec les personnes en situation de handicap. Je ne peux pas vous demander comment on peut prévenir ça, mais comment, disons, comme parents, on fait pour éduquer, pour aider à ce que ça ne se produise pas? Est-ce que c'est possible?
C'est possible, certainement, et ça passe par l'éducation. En fait, pour rebondir sur 40 % évidemment, ça dépend des études, ça dépend des régions. C'est typé 40 % en Amérique du Nord, mais si on se rend compte à travers le monde, dans le monde du handicap, les violences subies par les personnes en situation de handicap peuvent être beaucoup plus élevées que 40 % Certaines études parlent de 70 %
Ah ouais.
Vraiment, M. Racette, au niveau de la sexualité, là, uniquement. Donc, on ne parle pas des violences en général, mais des violences sexuelles. Effectivement, on peut prévenir l'agression sexuelle par le biais de l'éducation. Souvent, l'éducation à la sexualité est mise de côté auprès d'un enfant en situation de handicap. Les parents, malheureusement, ont tendance à angéliser leurs enfants en situation de handicap. Je m'explique, je veux dire, pour eux, c'est comme si la sexualité n'atteignait pas leurs enfants. C'est une question qui les préoccupe pas. Ils ne veulent pas les voir comme des personnes sexuées. Donc, bien, bien souvent, l'éducation sexuelle est mise de côté.
Et donc, on n'en parle jamais ou presque jamais avec ses enfants. C'est un peu ça.
Exactement, presque jamais. Et malheureusement, c'est la même chose en intervention. Donc, même l'enfant situation de handicap ne sera pas confronté à des questions de sexualité non plus avec ses intervenants. Donc, c'est une question qui est facilement mise de côté et la personne se retrouve peu outillée finalement à savoir ce qui est normal, ce qui est une agression, ce qui ne devrait pas arriver.
Donc, tout là est le problème, la difficulté d'en parler, etc. C'est pas facile pour les parents de le faire. Comment, comme parents, on peut mieux éduquer à la sexualité ou même au consentement?
Donc, déjà, c'est d'aborder la question, d'avoir un dialogue ouvert. Je sais que c'est quelque chose qu'on traite souvent dans nos chroniques, là, d'ouvrir le dialogue sur la sexualité. Mais en tant que parent, c'est le premier pas à faire. Et si on n'est pas à l'aise, d'adresser la question aux intervenants de notre enfant.
Oui.
Moi, j'aimerais qu'il y ait une éducation à la sexualité. Je suis pas à l'aise avec ça. Qu'est-ce que je peux faire? Et de plus en plus, on en parle, l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est la même chose au niveau de l'inclusion dans les écoles inclusives. Il faut que les enfants, aussi en situation de handicap, soient outillés pour être capables de reconnaître ce qui est une agression, ce qui ne l'est pas.
Oui. Et puis, rappelez en fait, qu'est-ce que vous diriez comme sexologue si vous êtes en présence d'une personne qui vous pose les questions, les personnes en situation de handicap, comment on fait pour être clair, pour se prémunir de ça? Est-ce qu'il y a des moyens, à votre avis?
Oui, il y a des moyens. Il faut garder en tête la vulnérabilité à l'exposition du corps de la personne en situation de handicap.
Oui, tout simplement.
Donc,
c'est
là toute la différence avec une personne, finalement, qui ne serait pas limitée au niveau physique, au niveau intellectuel. Mm-hmm. Donc, il faut rappeler que ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui ont contact avec elle.
Oui.
Donc, pas juste une supposée ou une future amoureuse, amoureux, mais aussi ton corps t'appartient, peu importe qui a à le toucher, finalement.
Oui, c'est ça. Puis, soyons honnêtes, puis d'ailleurs, plusieurs études le rappellent, les gens autour des personnes en situation de handicap, bon, c'est souvent le cas là, chez n'importe qui vit une agression, c'est souvent quelqu'un autour de soi qu'il commet, pas un étranger, mais chez les personnes en situation de handicap qui sont très vulnérabilisées par le fait qu'il y a plein de gens qui doivent les aider dans certaines circonstances à se laver ou prendre soin d'eux-mêmes. En tout cas, bref, comment on fait pour, comment je pourrais dire ça, informer ou se protéger de l'entourage qui doit prendre soin de soi?
Effectivement, c'est très difficile. Si on parle des agressions sexuelles en général, Benoît, dans la population, c'est souvent un proche qui commet l'agression.
Oui.
Donc, c'est d'autant plus important parce que les intervenants en soins de santé, les professionnels, ont accès au corps de la personne.
Oui.
Donc, c'est important. Et il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier de parler, c'est le désir sexuel qui peut être provoqué par la relation de soins.
Ouais.
Donc, c'est important d'aborder ça aussi avec les personnes, de dire que c'est pas anormal, ça se fait que si on pousse...
Faut pas condamner, il faut éduquer en substance, c'est ce que vous dites.
Absolument. Tous les aspects de la sexualité, et pas seulement par la peur de l'abus, par la peur de l'agression.
Mais plutôt par le dialogue.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Sonia Boucher. On vous retrouve sur Sexologue à domicile. Merci d'être là. À bientôt.
Un grand plaisir, comme toujours. Au revoir.
Au revoir.
À l'automne, balayé d'oranger, saignant de rouge et or, chargé d'hélium, à demi envolé, s'accrochant au dernier de tes soupirs, refaire le tour du cadran.
savez sans doute, tous les jours de la semaine à 11h30, on vous informe grâce à Hélène Denis par le biais des paractualités. Et chaque semaine, eh bien, ces paractualités nous permettent de prendre la mesure de ce qui se passe partout au Canada, par et pour et afin d'aider la communauté des personnes handicapées. Voici quelques nouvelles qu'on a retenues pour vous en ce vendredi au National.
Pas de procès accéléré pour la contestation de la loi sur l'aide médicale à mourir. C'est sur le site de Radio-Canada. La Cour suprême de la Colombie-Britannique statue qu'il n'y aura pas de procès accéléré quant à la contestation constitutionnelle de la nouvelle loi fédérale sur l'aide médicale à mourir. Selon une association qui défend les libertés civiles, de nombreux Canadiens vont continuer de subir une souffrance intolérable le long du procès. L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique avait demandé que la plus haute cour de la province empêche le gouvernement d'exposer de nouveau des faits déjà établis dans une décision judiciaire précédente. Jay Aubrey, avocate de l'association, dit qu'il est injuste que les Canadiens malades et en souffrance doivent ainsi attendre alors que la décision en question date d'il y a 2 ans. En 2015, dans l'arrêt Carter, la Cour suprême du Canada avait soutenu que l'aide médicale à mourir devrait être offerte aux adultes clairement consentants et compétents, atteints d'un trouble médical grave et incurable. Le gouvernement fédéral a répondu à la décision de la Cour suprême en présentant le projet de loi C-14, qui a reçu la sanction royale en juin 2016. Le projet de loi avait ajouté une exigence aux conditions prescrites par l'arrêt Carter. Le décès naturel d'une personne doit être raisonnablement prévisible pour que celle-ci ait accès à l'aide médicale à mourir. Après l'entrée en vigueur de la loi, l'association avait contesté la constitutionnalité de l'exigence d'un décès raisonnablement prévisible, qui, selon elle, exclut de nombreux Canadiens qui souffrent d'une maladie grave et incurable d'avoir accès à l'aide. L'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique n'a pas encore décidé si elle fera appel à la décision d'empêcher un procès accéléré. Kelly D. Puma, directrice des litiges pour l'association, affirme que la contestation de la loi sur l'aide médicale à mourir va continuer malgré la décision. Une première aire de jeu complètement accessible à Aurora, en Ontario. C'est sur le site iciradiocanada.ca. La ville d'Aurora a inauguré sa première aire de jeu entièrement accessible la semaine dernière. Alors que le gouvernement provincial souhaite que l'Ontario devienne complètement accessible d'ici 2025, les municipalités créent de plus en plus d'espaces publics qui répondent aux exigences. La transition demeure toutefois un défi. Le parc Queen's Diamond Jubilee, situé devant l'hôtel de ville, comprend un revêtement de caoutchouc qui amortit les chocs et facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite, dont celles qui se déplacent à l'aide d'un fauteuil roulant. Les concepteurs ont aussi misé sur l'expérience sensorielle. Les structures de différentes formes et textures sont variées et certaines sections du parc intègrent des composantes de la nature. Ce parc nous permet d'inclure tout le monde. Certains espaces de la ville ne sont pas très accessibles et nous avons l'obligation d'offrir des lieux qui le sont. Cette aire de jeu est loin d'être unique en son genre. En effet, elles sont de plus en plus populaires dans la province. La loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario a subi une révision en 2013. Depuis 4 ans, les municipalités ont dû effectuer un virage pour se soumettre aux nouvelles exigences. Les nouveaux espaces publics et ceux qui sont réaménagés doivent offrir des options d'accessibilité. En ce qui concerne les aires de jeu, elles doivent être dotées d'une surface ferme et stable pouvant amortir les impacts. Une canne blanche électronique pour les personnes non-voyantes sur le site signoractu.com. Alors que s'est tenue le 15 octobre 2017 la Journée internationale de la canne blanche, la Fondation Vision, spécialisée dans la question de la déficience visuelle, a présenté sa canne blanche électronique TomPus, qui permet, grâce à ses capteurs infrarouges et lasers, d'anticiper les obstacles mobiles et immobiles et les signale à son utilisateur sous forme de vibrations. Rappelons qu'en France, près de 2 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes et que selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de déficients visuels serait doublé d'ici 2050, notamment compte tenu du vieillissement des populations dans le monde. Dans ce contexte, la Fondation Vision, au plus près des personnes atteintes de déficiences visuelles sévères, étudie et développe des solutions technologiques qui leur permettent de se déplacer de façon plus fluide et plus sécurisée, réduisant ainsi le stress et les risques de choc. L'un de ses derniers produits, la canne électronique Tom Pouce. Comment ça fonctionne? Un petit boîtier, baptisé Tom Pouce, se fixe sur n'importe quelle canne blanche, la transformant immédiatement en canne électronique. Ensuite, il permet de détecter les obstacles se situant de 1 mètre à 12 mètres vers l'avant et en hauteur jusqu'à 2,50 mètres, un tout nouveau produit qui devrait renforcer l'autonomie des aveugles. À noter que le coût de cette canne Tom Pouce s'élève à 5 000 €, soit environ 7 400 $. INCA est heureux de contribuer au programme paralympien recherché du Comité paralympique canadien. Paralympien recherché sera à Vancouver le dimanche 22 octobre et à Toronto le dimanche 26 novembre. Paralympien recherché est un excitant programme conçu pour identifier les futurs athlètes paralympiques potentiels. C'est une activité d'une journée qui offre aux personnes ayant un handicap la chance de tester leurs habiletés et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. L'activité est ouverte aux personnes ayant un handicap physique ou une déficience visuelle de 14 à 35 ans. L'inscription est gratuite et peut se faire à paralympique.ca/paralympien-recherche au pluriel.
Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission Le National et comme je me plais à le faire à toutes les semaines, je voudrais remercier l'équipe qui rend possible cette émission-là. Je nomme Jean-Sébastien Laliberté, Mathieu Tessier, Benoît Rassette, Hélène Denis, Kevin Breton, Anne-Laure Janson, Christiane Campagna et Marc Britton, autrement dit, toute la communauté de la radio, se joignent à Clotilde Seille pour vous présenter Le National et vous souhaiter une belle semaine. Salut.